La CVRP, Cinéma, Vidéo, Radio, Production, vous présente une cassette OB.
Thank you. nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Dans la pièce. Georges se dit que s'il n'avait pas dit ça, il en serait tombé malade. Maintenant la chose a été dite. Il se sent malgré tout affreusement gêné. Et puis, ce qu'il fait, c'est un coup de poker, parce qu'il n'est pas sûr pour Nathalie. Elle ne sait même pas ce qu'il a fait. Daniel se retourne et lui demande « Tu n'es pas bien avec moi ?» Georges lui dit « Non, écoute, tu crois que c'est normal que l'on vive comme ça, en jouant au couple ?» Daniel lui dit « Oui, pour moi, oui, parce que je t'aime. » Georges lui dit « Tu nous vois toujours vivant comme ça ?» « Oui. » « Eh bien, moi, non. » Nous aurions vieilli l'un près de l'autre, nous voir nous déformer, le visage se rider, les cheveux devenir gris, nous élargir, les fesses larges et grosses, le ventre aussi. Tu nous vois comme ça? Ce genre de couple, c'est bon lorsqu'on est jeune et beau, mais après, ça fait ridicule. Daniel lui dit « Oui, moi, je nous vois près de toi. Et ce que tu dis, c'est bon pour tous les couples? Tous les couples vieillissent. » Je lui dis « Ça ne te gênerait pas ?» Daniel lui dit « Non, parce que pour moi, l'amour est plus fort que tout, et même que la dégradation du temps. » Georges lui dit « Eh bien, tu es un saint. » Daniel lui dit « Mais nous sommes encore jeunes et on a encore de belles années devant nous. Ce n'est pas urgent de se quitter. » Georges lui dit, « Il n'y a pas que ça. Nous sommes vus par les autres aussi. Et les autres nous prennent pour quoi ?» Daniel lui dit, « Les autres, je m'en moque. » « Eh bien, pas moi. Je ne veux pas qu'on jase derrière mon dos. Je ne veux pas être rejeté par les autres. » Daniel lui dit, « Si on te fait des réflexions, si tu veux, on peut quitter Paris et aller ailleurs. » Georges lui dit, « Et se cacher dans les bois ?» Daniel lui dit, « Ça ne me gênerait pas du tout. » Il va vers Georges. Il se penche vers lui et lui dit, « Il n'y a pas que ça qui te fait partir. » Il met la main sur les siennes. Georges, d'un geste brusque, déjà dégage sa main. Ça fait mal à Daniel. Georges lui dit, « Il n'y a pas que ça. » Daniel se dit, L'Aniel ne dit rien, la gorge serrée. Georges continue et lui dit « J'aime une autre personne. » L'Aniel sent un grand vide et en même temps ses oreilles qui bourdonnent. Georges continue « Et c'est pour ça que je m'en vais. » Daniel demande, je le connais? Georges lui dit, non, c'est pas ce que tu crois. Daniel demande, c'est une fille? Oui. Daniel a encore plus mal, parce qu'une fille ne peut pas lutter contre la société, parce que la société est de son côté. Il peut se marier, et c'est la preuve qu'il aime le contraire de ce qu'il aime. Ça veut dire que ne pourra jamais le ravoir. Ou s'il l'a, ne l'aura pas à 100%, puisqu'il est capable d'aimer son contraire. Il lui dit tout de même, pour le déstabiliser, c'est impossible. Tu es incapable de faire l'amour avec une fille. Georges vexé lui dit « Qu'est-ce que tu en sais ?» Daniel lui répond « Je le sais. L'ego à moi pourrait peut-être. Mais les tiens, non. » Georges sous les épaules et lui dit « Et qu'est-ce que tu connais de mes goûts ?» Daniel lui dit « Je sais ce que tu aimes. » Georges demande « Comment ?» Daniel lui dit « Par ce qui te fait plaisir. » Georges lui dit, en se penchant vers lui et pour le déstabiliser, « J'aimais ce que je savais, ce qui te ferait plaisir. » Pour te faire plaisir. » Daniel est effondré et baisse la tête et lui dit « Ce que tu viens de me dire, c'est que tu me jouais la comédie même dans nos moments les plus intimes. » Georges lui dit « Oui. » Daniel lui dit « T'ignores ce que tu me dis là. Tu t'es comporté avec moi comme une courtisane. » Georges est furieux qu'on le traite de courtisane. Il lui dit, je ne pouvais pas faire autrement avec toi. Ou plutôt, je ne peux pas faire autrement avec toi. Daniel se redresse péniblement. Il lui demande, tu veux boire quelque chose? Georges soupire, mais il a besoin de décongestionner. Il lui dit, oui, je veux bien. Daniel lui dit, je crois que nous en avons besoin tous les deux. D'un bon cognac. Va au bar, prendre la boisson et les deux verres. De faire ses gestes tranquillement, comme si de rien n'était, du fait du bien. Et puis il se dit que c'est peut-être pas fini. Il le connaît, son Georges. Il revient avec la bouteille et les verres. Et serre. Tiens, merci. Après s'être servi un verre, il va s'asseoir en face de Georges. Gorgé, il souffle un peu. Il se dit que si la boisson était une drogue, qu'il ferait tout oublier. Il n'ose pas trop le regarder, de peur qu'il se fâche. Il se dit, il veut jouer les indépendants, les adultes, Il fait sa crise d'adolescence. Georges pose son verre. Ça fait sursauter Daniel. Georges se lève. Daniel lui dit « Pourquoi ?»« Attends. Au moins que j'ai fini mon verre. Tu es bien si pressé. » Georges se rassoit. Daniel est paniqué. Il essaie de pas trop lui montrer et lui demande « Et où vas-tu à buter ? Où ?»« Où je voudrais, pourquoi ?» Daniel lui dit « J'ai dit ça comme ça pour savoir si tu le sais, à moins que tu vas aller chez elle. » Georges lui dit non. Daniel lui demande « Ses parents ?» Georges lui dit « Non, oui, et puis il vaut mieux que tu le saches. C'est Nathalie. » Daniel sourit et lui dit « Je m'en doutais. » Georges lui dit « On dit toujours ça. » Daniel lui dit « Je m'en doutais. Et Gilbert, il le sait que tu vas vivre avec elle ?» Georges lui dit « Gilbert, il n'a rien à voir dans cette affaire. » Daniel lui dit « Et tout de même fiancée, Nathalie ?» ?»« Non, pas vraiment. Et puis ça n'a aucune importance. » Daniel lui dit « Tu vas le savoir. Qu'est-ce qu'il va faire ?» Georges lui dit « Il ne pourra rien faire. Et puis Nathalie est libre. Et la mère de Nathalie ne l'aime pas Gilbert. » Daniel lui dit « Tu crois que la mère de Nathalie sera contente que sa fille aille avec toi ?» Georges furieux lui dit « Et pourquoi elle ne lui plairait pas ?» Daniel lui dit « Parce que tu es... » Georges lui dit « Ce n'est pas marqué sur ma figure. Tu vois, toi aussi, tu arrives quand même à remarquer que moi, tu vois bien que de vivre comme ça, ce n'est pas bien, c'est nuisible pour nous. » J'ai pas dit ça, je dis ce que risque de penser à mère Nathalie. Georges lui dit, et c'est ce que pensent tous les autres. Nous sommes mis en dehors de la société. Tu vois que j'ai raison. Daniel lui dit, de vouloir être comme tout le monde et de renier ta vie et ce que tu as aimé. Il soupire et se sert à boire. Et lui dit, ça me dégoûte. Georges lui dit, puisque je te dégoûte, je peux bien partir, moi, hein? Daniel lui dit, j'ai pas dit ça, tu défigures tout ce que je dis. Tiens, donne-moi ton verre. Georges lui tend. Daniel lui sert un verre. Et lui dit, je trouve, enfin, tu trouves que c'est gentil pour Gilbert, ce que tu vas lui faire? Georges hausse les épaules et lui dit, il en trouvera une autre? Daniel lui dit, tu aurais toi aussi pu en trouver une autre. Georges lui dit, non, parce que moi je l'aime. Et lui, il ne l'aime pas? Georges ne dit rien. Il se taise un moment. Daniel soupire. Georges pousse son verre vide et se lève. Daniel a peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Georges lui dit, eh bien, je vais prendre mes affaires. Daniel a le corps qui bat. Pour aller où? Il est trop tard. Tu partiras demain matin? Georges lui dit, non, je dois m'en aller. Il est tard, et puis j'ai dit, trop de choses, je ne peux pas rester, ce ne serait pas bien. » Daniel lui dit, « Non, tu peux rester, ça ne me gêne pas du tout. » Georges lui dit, « Non, je dois m'en aller. » Daniel lui dit, « Ça ne me gêne pas, tu parles, ce n'est pas parce que nous avons parlé, tu peux rester, puisque c'est moi qui te le dis. Non, j'aime mieux partir. » Il se dirige vers la sortie du salon. Daniel se lève péniblement. Il a les jambes en coton. Le corps qui bat. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il y a du brouillard devant les yeux. Il sort du salon péniblement pour aller rejoindre Georges. Dans la chambre. Georges ouvre l'armoire, met en sort ses affaires. Qui dépose sur le lit, costume, chemise, pull, etc. Daniel voit tout ça. Il y a la gorge qui le serre. Ça fait mal. Il y a des fourmillements dans les membres. Il dit à Georges, attends, je ne sens pas bien. Reste un peu. Georges regarde et lui dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sens pas bien. Georges ouvre ses épaules et continue à sortir ses affaires. Daniel a la respiration difficile. Il se dit, j'aimerais mourir maintenant. Ou être très malade. Comme ça, il verra combien. Il me fait du mal. Oh! Que j'aimerais mourir. Il lui dit, c'est idiot ce que tu fais. Il a le souffle court, s'assoit péniblement sur le rebord du lit. Georges continue à ranger ses affaires. Ça fait mal, Daniel, qu'il ne fasse pas attention à lui. Il pleure en se disant, qui pourrait crever à côté de lui, qui ne ferait rien. Georges s'est trompé, il a pris une chemise à Daniel. Daniel le voit et lui dit, tu peux la garder si tu veux. Georges lui dit, non, elle est à toi. Oh, ça ne fait rien, j'en ai plus besoin. Georges la regarde et lui dit, non. Et la remet dans l'armoire. Daniel est triste et se dit qu'il n'accepte plus aucun cadeau de moi. La main sur le côté gauche, sous les bras, c'est nerveux. Mais il aimerait que ce soit le corps. Georges remplit sa valise. Daniel n'en peut plus. Il n'est qu'une loque qui souffle. Il a la gorge serrée. Il ne sait plus quoi dire. Il a le souffle difficile. Lorsqu'il est comme lorsqu'il a des larmes. La gorge serrée. Georges ferme sa valise. Il range ses vêtements, et porte ses deux valises. Il passe devant Daniel sans rien lui dire, quoi que ce soit. Daniel réussit à se lever. Où vas-tu aller à cette heure? Ne répond pas et continue à marcher. Ils sortent de la chambre. Daniel aussi, péniblement, réussit à se lever et il a les larmes aux yeux, le souffle court, les jambes qui le tiennent à peine. Il sort de la chambre, suit Georges qui va vers la sortie de l'appartement. Il le suit péniblement. Il se dit, oh mon Dieu, si je pouvais mourir, si je pouvais mourir. Georges est près de la porte. Il se tourne enfin et lui dit, bon et bien, au revoir. Il met la main sur la poignée de la porte. Daniel lui dit, attends. Quoi? Rien. Je m'en vais. Non, pas tout de suite. Georges soupire et lui dit, qu'est-ce que tu veux encore me dire? Rien. Bon, je m'en vais. Non, arrête. Jean soupire et lui dit, écoute, il est tard, tu l'as dit toi-même. Tu peux pas partir comme ça. Georges pose ses valises à terre. Et lui dit, pourquoi? Après tout ce que nous avons fait ensemble, tu te souviens? C'est moi qui suis allé te chercher. C'est ta mère. Georges soupire et lui dit, oui, je sais tout ça. Pourquoi est-ce que tu me racontes ces choses?
Parce que tu t'es bien content de partir avec moi.
Georges lui dit, tu veux savoir la vérité? Non, j'avais honte. Et j'étais gêné que tu te présentes à mon père. J'avais honte, honte de toi. Ce que tu as dit à mon père et à ma mère, ça m'a fait du mal. Je n'ai plus jamais osé les regarder en face depuis. Pour mon père, je ne suis plus qu'un rien de rien. Pour ma mère, je suis son chagrin à cause de toi. J'aurais mieux aimé que tu ne me dises rien. Alors tu vois, je fais bien de partir. Daniel lui dit,
alors pourquoi est-ce que tu es parti avec moi?
Il lui répond, je ne pouvais pas faire autrement après ce que tu avais dit à mes parents. Et puis j'avais plus rien. Alors je t'ai suivi. Et puis, je voulais pas te faire de mal. Froisser ton amour. Daniel lui dit, tu ne m'as jamais aimé? Si, mais pas comme toi. J'ai aimé ton amour, pas toi. Daniel lui dit,
tu t'es moqué de moi.
Moi qui t'ai tout donné. Georges lui dit, moi aussi je t'ai donné. Je t'ai fait cadeau de 2 ans de ma vie. C'est un beau cadeau, non? Daniel ne dit rien. Son univers s'effondre. Je soupire et lui dis, je te respecte beaucoup et je t'aime, mais pas comme toi. Tu dois comprendre que moi aussi, je dois vivre ma vie. Daniel lui dit, et quelle vie? Georges lui dit, une vie normale, avec une femme que j'aimerais. Daniel lui dit,
tu crois que c'est vivre une vie normale que de partir avec la femme d'un autre? Tu me laisses tomber pour faire cocu un de tes amis?
Georges lui dit, d'abord Gilbert n'est pas vraiment un ami, et puis ça suffit, il a déjà suffisamment parlé de ça. Allez, prends ses valises. Daniel tremblant lui dit,
attends.
Georges soupire et lui dit, quoi encore? C'est fou ce que les gens qui veulent rompre veulent pas voir la détresse de l'autre. ils deviennent égoïstes. La course au bonheur laisse sur le carreau bien des victimes. Daniel ne sait que lui dire.
J'ai quelque chose à te donner. George lui dit. Non, j'ai besoin de rien. Tu ne peux pas me refuser. C'est un dernier cadeau. Et je sens que ça te ferait plaisir.
George lui dit. J'en ai rien à foutre de ton cadeau.
Daniel lui dit. C'est un peu d'argent pour voir venir.
George fait. Non.
Daniel lui dit. Je t'en prie. Prends. Ce que je te donne, ce n'est rien.
George réfléchit, se dit qu'un peu d'argent, d'avance, ça serait pas mal, surtout avec Nathalie. Il lui dit,
bon, donne.
J'ai ma carte dans ma chambre. Viens. George soupire et pose les valises à terre. Ici Daniel, qui le mène à sa chambre. Il se dit, j'ai réussi à le mener jusque-là. George tend son écran. Tiens, Daniel le prend. Il pourrait le garder et l'empêcher de partir. Comment ferait-il son écran? Il ouvre l'armoire et cherche dans les poches de ses costumes, sa carte. Il a la main qui tremble et se dit, mon Dieu, faites en sorte à ce que je ne le trouve pas. Et faites en sorte à ce qu'il puisse se passer quelque chose pour qu'il reste. Il trouve cette satanée carte. Il a les mains qui tremblent. George lui dit, alors, Daniel, ne sais combien lui mettre. Il se dit, il me fait une saloperie, il faut que je lui donne de l'argent. Il met n'importe quoi. Fait 3, 4, 0. Comme ça. Il ne sait même pas s'il a cette somme sur son compte. Ça n'a aucune importance. S'il lui fait un procès, ça lui permettra de le revoir. Il garde tremblant l'écran. George lui dit, tu me le rends mon écran, s'il te plaît? Il est tard. Daniel le garde tremblant dans sa main et lui dit, j'ai un PC de partir. Tu ne vois pas le mal que tu me fais? Mais, moi, qui ne t'ai rien fait? George lui dit, tu ressens ce qu'ont ressenti mes parents lorsque je les ai quittés à cause de toi. Daniel a mal et se dit, tu oublies une chose, c'est que nous sommes connus dans un endroit spécialisé et que tu aimais. Et que tu m'as demandé, c'est toi qui es tombé à moi, qui est venu à moi. George lui dit, peut-être, il fallait bien que j'essaye. Et puis, cette histoire, c'est l'histoire ancienne. Daniel lui dit, oui. Tu ne vas pas te renier? Et voir que ton bon côté, le côté, disons, nature, n'est-ce pas? Non. Mais tu auras fait souffrir les autres. George soupire et lui dit, ça va, rends-moi mon écran et basta. Tu dois être heureux de ne plus pouvoir me voir. Et puis, ça va éviter les scènes. Donne-moi mon écran, s'il te plaît. Daniel serre dans sa main l'écran qui est la seule chose qui empêche George de le quitter. Une fois qu'il l'aura, il s'en ira. Donne-moi mon écran. Ne dis rien. Donne-le-moi. George tend la main. Daniel ne tend rien du tout. Tu vas pas me faire une scène maintenant que je m'en vais. Donne-moi cet écran. Donne-moi cet écran. Daniel plaque la main à l'écran contre sa poitrine. George tend cette main. Tire cette main. Daniel la tient très fermement contre lui. Puisque c'est comme ça, Il donne un coup de poing qui fait reculer Daniel. Georges lui dit « Cet écran !» Il fonce sur Daniel, la tête la première, et le fait tomber à terre. Il se met sur lui. Daniel tient fermement la main contre lui. Georges, des deux mains, essaie de lui faire lâcher l'écran. D'un main, Daniel, de sa main libre, essaie de l'empêcher en repoussant les siennes. Mais il n'y arrive pas. Georges est en sueur. Il veut gagner. Daniel est plus faible. Parce que lui, malgré lui, est pris par l'odeur et le corps qui est contre lui et qu'il aime. Il se défend plus mollement parce qu'il jouit en même temps de l'avoir contre lui. Tout à coup, Georges, n'en pouvant plus, lui mord la main. Hey! Ce qui fait lâcher l'écran. Georges le prend et se relève. Il monte un visage radieux et heureux. Daniel, sa tristesse revient. Il se dit que c'est fini, et malgré lui, malgré cette bagarre idiote, il a encore goûté au corps de son ami. Georges se relève, transpirant, range ses cheveux, et s'apprête à le quitter. Daniel se relève, courbaturé. Il court après Georges, qui est dans le couloir, et va vers la sortie de l'appartement. Il met la main sur la poignée de la porte. Daniel panique, et cherchant ce qu'il fait. Mais il faut arrêter le geste de Georges. Alors, il prend une statuette en bronze qui est là sur la commode. Il la lui jette de tout son poids. Georges tombe. La tête la première a cogné la porte qui s'est ouverte. Vite Daniel, la cour à lui. Ferme la porte de sa main et se penche vers Georges. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est soulevé légèrement. Il touche sa nuque avec sa main et voit qu'elle est pleine de sang. Ce sang dégoûte Daniel et lui montre un Georges abîmé. Le sang qui coule de sa blessure représente pour lui, disons, un Georges moins bien, abîmé, qui est à un pied dans la tombe. Il ne supporte pas de voir son Georges soldé, moins pur. C'est comme si votre tableau que vous aimez était détérioré. C'était détérioré. Vous l'aimeriez moins ou plus. Eh bien, pour lui, c'est la même chose. D'un coup, encore, à cause de cette blessure, il aime moins, seulement à cause de ça. J'aurais pu moins l'aimer parce qu'il partait ou pour ce qu'il lui avait dit. Non, il l'aimait encore à cause de ça. Il l'aimait encore malgré ça. Il se dit qu'une œuvre mutilée, on la détruit. Ses pensées ont été très vite, plus vite que je vous les explique. Elles sont venues comme ça, sans réfléchir. C'est dit juste, sans comprendre le pourquoi, qui était en lui. Une œuvre et qui est mutilée, ça se détruit. Puisque si je ne porte pas son ami, avec une blessure, avec quelque chose qui le rend moins beau physiquement, ou le rend humain comme tout le monde, qui a quitté sa statue de Dieu pour être un simple mortel, voilà en gros. Lui, Georges, n'a pas grand-chose, en réalité, juste une petite entaille de rien du tout à la nuque et d'où sort le sang. Il est conscient et cherche à se relever d'un geste. Daniel le fait retomber. Ça ne va pas ? Ne répond pas. Pas. Ouvre le tiroir qui est dessus la commode et en tire un revolver. Et vise Georges qui est encore à terre. Mais ! Et Daniel tire. La balle a fait un trou dans la tempe, un trou rouge, d'où il sort un filet de sang. Georges a la bouche ouverte, les yeux horrifiés, il ne bouge plus. Daniel jette le revolver à terre et dit: on achève bien les chevaux blessés. Puis il reste debout, froid. Il n'y a pas de bruit. Le corps est allongé devant lui, pareil immense. Il reste un long moment comme ça, sans bouger. Il réfléchit, enjambe le corps et va à la cuisine se préparer le repas du soir. Il se prépare une boîte de raviolis et de la salade. Toutes ces émotions lui ont donné faim. Une faim nerveuse, excitante. Après avoir mangé, il regarde l'heure, 21h, l'heure d'octo. Il sort de la cuisine pour aller à son bureau. s'asseoir à son bureau, prendre le téléphone et faire un numéro. Allô? J'aimerais parler, s'il vous plaît, à Gilbert Framblanc. Dites-lui simplement que je suis Georges. Merci. Allô, Gilbert? C'est moi, Georges. Tu vas bien? Écoute, j'ai quelque chose à te demander. Pourrais-tu passer me voir le plus vite possible? Si tu peux. Bien, demain matin à 10h. Merci. Et il sort du bureau pour aller à sa chambre se coucher. En passant devant le corps, il ne le regarde même pas. Pour lui, c'est fini, il n'existe plus. Demi-heure plus tard, il dort d'un sommeil de plomb, la fatigue, la peur, l'émotion. Il ne rêve à rien du noir. Le lendemain matin, se réveille. La tête un peu bas, lourde, embrouillée. Puis il se souvient de cette horrible scène. De ce Georges qui le quitte pour Nathalie. Par une seconde, il a la gorge serrée et se dit qu'il est ici, bien ici. Et qui n'est pas parti, qui ne peut plus le quitter, sera toujours à lui. Ça lui fait du bien, malgré qu'il sache qu'il soit mort. Mais le besoin de posséder à jamais Georges rend sa mort peu de choses. Il se lève. Va à la salle de bain. Puis retourne à sa chambre pour s'habiller. Il sort de sa chambre. Il voit dans le couloir cette grande masse à terre qui est celle de son ami. ne veut pas le voir. De savoir qu'il est là, près de lui, lui suffit. Il enjambe pour aller à la cuisine, pour prendre son petit déjeuner. Une logique à lui, lui dit que tout est rentré dans l'ordre. Après avoir pris son petit déjeuner, il va au salon écouter de la musique. Son ami est là près de lui. Il ne se rend pas compte qu'il est entré dans un monde clos avec sa logique, ses habitudes. Il sait que son ami est là, près de lui, ça lui suffit. Il ne voit pas plus loin que ça. Les autres, le monde, a disparu. Le temps passe. La sonnerie de l'interphone fait sursauter. Il était dans ses rêveries. La sonnerie de l'interphone le fait sursauter. Il était dans ses rêves. Il va à la porte répondre automatiquement. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.